le féminisme de
Françoise.
Bonjour, et oui, pour cette nouvelle année 2024, on vous a préparé un joli cadeau. On va vous offrir une émission sur le féminisme. C'est un sujet qu'on aborde assez peu sur l'antenne de Radio FM+, et c'est notre nouveauté 2024. Pour en parler, eh bien, on va donner suite à une émission que nous avons faite en novembre ou décembre, une belle rencontre, où j'avais le plaisir d'inviter Françoise Mariotti. Et Françoise, eh ben, il y a eu un coup de foudre entre nous, entre la radio, et vous avez gentiment accepté donc de reprendre à votre charge cette partie de notre culture, de nos relations, qui est le féminisme.
Bonjour à tout le monde. J'ai accepté gentiment, non, j'ai accepté avec gourmandise. Plutôt, parce qu'avoir comme une chronique mensuelle sur une radio, c'était mon rêve depuis quoi, 30 ans, 40 ans. Et quand on dit qu'il y a des. On nous souhaite la bonne année, tout ça, qu'est-ce que vous espériez? Bah, Nathalie, vous me l'avez offert avant, le début de l'année. Donc je suis très contente d'être là. On a plein d'idées toutes les deux. On ne va pas être seule à tenir
non,
cette émission.
Parce que je voudrais vraiment mettre William dans le projet, puisque dès que j'ai dit à William, j'ai rencontré une fille super, on va faire une belle rencontre, mais j'ai des idées derrière, il m'a dit banco, cette fille est formidable.
Voilà, je suis une femme quand même. Hein.
Voilà, cette femme est formidable.
À l'âge que j'ai, c'est bon. Le côté fille est passé.
Donc on s'est vues toutes les deux et puis on a cherché des sujets.
Ouais.
Voilà, des sujets concernants, des sujets d'actualité ou pas d'actualité, des sujets qui concernent évidemment tout le monde, puisque le féminisme ne concerne pas que les femmes, faut-il le rappeler. Et donc d'ailleurs à ce propos, si des auditeurs souhaitent qu'on parle ou qui voudraient voir certains sujets abordés, ben, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou dans les réseaux sociaux pour nous dire bah, « tiens, ça serait peut-être bien d'avoir l'avis de Françoise ».
Et puis des auditrices.
Bien sûr, auditeur et auditrice.
Auditrice, William dit auditrice, hein, ouais. J'aime bien, ouais, c'est joli.
Et n'hésitez pas surtout à revenir vers nous. Aujourd'hui, Françoise, alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes psychologue.
Ouais.
Vous avez fait des grandes études en psychologie.
Moi, je suis allée jusqu'au doctorat et puis j'ai enseigné la psychologie, j'ai écrit des articles. Je ne suis pas clinicienne. Alors je sais qu'il ne faut pas se définir en termes de « je ne suis pas ». Mais disons que je suis plutôt allée vers la psychologie scientifique, la psychologie qui fonctionne avec des preuves, donc la psychologie expérimentale. Et j'ai plutôt été dans la psychologie sociale et je voulais être enseignante. Malheureusement, j'en parlais hier, je fais partie aussi de l'association Femmes et Sciences. Le jour de mon audition, j'étais auditionnée pour la première audition au poste de maître de conférence par 15 hommes. Je suis rentrée dans la salle, j'ai fait un pas en arrière. Moi qui ai fait 200 sauts en parachute, je rentre dans une salle d'audition, il y avait 15 hommes qui me recevaient en cercle et j'ai reculé. Bref, je n'ai pas été prise et mon directeur de thèse le soir m'a dit « il n'aime pas les femmes trop assertives ». Ok. Il fallait pas. Donc, j'avais mon titre de psychologue. Et puis, de toute façon, j'étais venue aux études pour comprendre les gens, essayer de les aider en étant psychologue moi-même. Donc, ça m'allait très bien. Voilà. Donc, qui je suis, par ça, je suis féministe.
Vous êtes investie dans beaucoup d'associations ?
J'ai été investie dans beaucoup d'associations. J'ai participé à la création de l'association citoyenne maintenant, qui est locale. J'ai été présidente du Cercle de zététique de Languedoc-Roussillon. J'y suis restée une douzaine d'années. J'y ai créé les universités d'été, devenues maintenant les universités d'automne. J'ai fait partie d'un club de bridge à Saint-Gély pendant 4 ans. J'en fais plus partie, j'ai plus le temps. Et dernièrement, Amicale d'Uni, je l'ai dit, encore. L'Amicale d'Uni, qui s'occupe des personnes en situation de prostitution. Et puis, Femmes et Sciences, que j'ai rejoint il y a 2 ans. Voilà
et un nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Martine Vigui, on le rappelle.
Aussi, Martine est une amie, effectivement. On se connaît depuis, c'est Citoyennes Maintenant qui nous avait réunis. On se connaît depuis 30 ans.
Martine, qui est une personne que tout le monde connaît dans les milieux de l'entrepreneuriat au féminin sur Montpellier, puisqu'elle accompagne et elle a accompagné énormément de femmes.
Justement. Et elle m'a accompagnée dans mon démarrage d'activité psychologique. Elle aime bien rappeler toujours que je lui disais ma petite carte de visite. Elle me dit non, François, c'est pas une petite carte. Ok. Parlons autrement, valorisons-nous.
Et aujourd'hui, Françoise, on a décidé de parler d'un sujet d'actualité.
Oui, vous voulez que j'en parle. L'affaire Depardieu et la banalisation de la culture du viol. Ouais. Là, j'ai devant moi un article du journal Le Monde. Et c'est là-dessus que je voudrais étendre, pour ne pas donner trop d'honneur à ce monsieur, mais parler de ce que ça signifie, cette affaire, finalement.
Moi, c'est vrai que je voulais vraiment vous entendre dessus, parce que... Alors, dans la famille, on est tous très épidermiques. Hein. C'est-à-dire que moi, mon mari... Alors que c'est un homme qui n'est pas spécialement déconstruit encore. Mais là, ce n'est pas possible pour lui. Voilà, c'est pas possible. Et puis, j'ai deux filles donc, voilà, qui sont montées au créneau là-dessus. Donc, ça a évidemment nourri les sujets de discussion de fin d'année, vous imaginez bien. Oui. Et c'est vrai que ça m'intéressait vraiment d'avoir votre voix sur ce sujet.
Françoise. Je sais que ça nourrit les discussions de fin d'année, puisque ben, je reçois des personnes en consultation et j'ai entendu parler de ça. Avec des colères, avec de la tristesse, du désappointement, de découvrir que nos amis peuvent ne pas voir du tout ce qui s'est passé et faire comme notre président, quoi. C'est un grand, on n'en parle pas comme ça, c'est pas si grave, ce n'est que des. Donc, rappelons que cet acteur-là, je veux dire, il n'est pas unique dans ce qu'il a fait.
Bien sûr.
Il n'est pas unique dans les viols dont il est accusé, il n'est pas unique dans ce qu'il a fait vivre à des femmes, des jeunes filles dans le milieu du cinéma. Je voudrais poser tout de suite que ce qui se passe dans le milieu du cinéma, ça se passe partout, dans tous les milieux. Alors il est évident qu'on a fractionné MeToo littérature, je ne sais pas comment on dit les hashtags, je ne suis pas très au courant là-dessus, mais bref, le MeToo a intéressé beaucoup de milieux différents. Et le cinéma n'est pas exemplaire.
Voilà. Il a démarré avec Weinstein et MeToo, c'était le cinéma.
Oui.
Mais on a très bien vu que dans les médias, avec Poivre d'Arvor, c'est pareil. Oui. Dans les milieux littéraires et les maisons d'édition, c'est exactement pareil. Oui. Et puis je dirais même que dans Super U et Intermarché, excusez-moi, et où Leclerc, parce qu'ils font citer trois, c'est aussi pareil.
La culture dit.
Et en politique, n'en parlons pas.
N'en parlons pas. Oui, si, on va en parler.
Mais
on
c'est
va
pas...
en parler.
Ça serait tellement rassurant que ça ne concerne. Enfin, ça serait tellement rassurant pour certains, pas pour moi.
Hein. Oui,
mais que
oui,
ça
oui,
ne
oui,
concerne
oui.
Voilà, que le milieu dépravé du cinéma avec ses gens privilégiés, etc. Non. La culture du viol, elle est hélas.
Mais vous savez, Nathalie, ce qui serait rassurant, c'est de considérer que. Ça concerne quelques hommes et que tous les autres sont. On ne doit pas s'en méfier. Alors je sais qu'on fera une émission là-dessus toutes les deux, mais hélas, effectivement, la figure de l'ogre, du monstre, comme on a dit, du monstre sacré, quelle drôle d'association de concepts émerge. Mais nous avons toutes, je crois. Pour peu qu'on ait le décodeur sur ce qui nous est arrivé, nous avons toutes vécu des situations où c'était un homme ordinaire. C'était le voisin, c'était l'oncle, c'était le grand-père, c'était le père, c'était l'ami, c'était...
Un proche souvent quand même.
C'était un proche, c'était le mari avec le devoir conjugal. Ce sont des gens dont on ne se méfierait pas à première vue.
D'expérience, François, c'est souvent des proches, c'est majoritairement des proches. C'est
majoritairement des proches, effectivement. Disons qu'on a... Je ne sais pas comment s'est construite cette image du viol dangereux dans les parkings souterrains.
Et alors, il y en a une qui en parle très bien. C'est Julia Foyce, la sœur de Marina Foyce, qui est chroniqueuse sur France Inter, qui a une émission, et qui a été violée dans un parking. Et violée par un mec, elle a dit, j'ai eu la malchance d'avoir un mauvais viol. C'est-à-dire que lui, il était dans une belle voiture, cadre, père de famille, bien sous tout rapport. Donc, quand elle a été... Parce qu'elle, tout de suite, elle y a été posée plainte. Enfin, bon, elle est rentrée dans le process de plainte. Eh bien, c'était elle la coupable et pas lui, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait, madame, pour l'allumer? Comment étiez-vous habillée, madame?
D'accord. Donc, quand on dit le mauvais viol, moi, en vous écoutant, Nathalie, je pensais que c'était le bon viol parce qu'il correspond à la représentation sociale du viol.
Non, le mauvais viol, quand Julia Foyce le définit, c'est que ce mec-là ne pouvait pas être un violeur. Ou que si jamais il n'a pas pu se retenir, c'est forcément que Julia Foyce a eu une attitude équivoque.
Bien sûr, oui, elle n'avait pas le bon habit, c'était pas le bon moment.
Exactement.
Puis elle était jeune, enfin bref, on sait qu'il y a des agressions sexuelles de personnes dans les maisons de retraite qui sont majoritairement occupées par des femmes, rappelons-le, par rapport à la pyramide de l'âge quand même, c'est pas... Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette affaire Depardieu ? Le titre de l'article dans Le Monde, d'Iris Bray, qui est une journaliste et une écrivaine, parle de la banalisation de la culture du viol. J'ai été aussi, je ne l'ai pas dit, j'étais coordinatrice du collectif Abolition 34, c'est-à-dire qu'autour de la loi abolitionniste sur la prostitution, il y a beaucoup de villes en France où se sont réunies en collectif des associations abolitionnistes pour divulguer dans la société un plaidoyer contre la prostitution, contre les violences prostitutionnelles faites aux femmes, aux enfants, aux hommes, aux personnes trans, et ainsi de suite. Et donc, il y a à Montpellier, on fait partie de ce collectif, donc l'Amicale Uni, le Mouvement d'Uni, Oser le féminisme, Citoyenne maintenant, Zéro Macho, peut-être qu'il m'en manque une, on était plus... Et le CDF. Le CDF. Et donc, nous avions organisé, il y a 4-5 ans, un café au Gazette Café sur la culture du viol. Et il y avait énormément d'enseignants, la salle était pleine quand on fait ça, il y a énormément d'enseignants qui sont venus. C'est quelque chose qui parle, la culture du viol. Il y a une journaliste qui a parlé de culte du viol. Alors, sans aller jusque-là, voilà, comment, moi, en tant que psychologue sociale, finalement aussi, j'ai une double casquette de thérapeute et de psychosociologue, comment ça se diffuse, la culture du viol ? À votre avis, Nathalie, comment ça se diffuse ?
Pour moi, je dirais presque que c'est historique. Enfin, la culture du viol, c'est quelque chose... C'est difficile parce que ça a toujours été condamné, entre parenthèses, et toujours accepté. Donc oui, bah, c'est bien ça, c'est culturel. C'est-à-dire que... c'est compliqué la question que vous me posez.
Oui, je sais bien, mais je l'ai posée à quelqu'un dont je savais qu'elle pouvait répondre.
Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose, c'est presque institutionnalisé. C'est-à-dire que oui, on accepte les propos graveleux, bah c'est pas si grave... Et puis, le viol, il est un peu, et ça, j'aimerais qu'un jour on l'aborde, ça m'intéresserait vraiment, quelque part, il est plus sale dans les classes populaires, que dans les milieux chics. Alors qu'on sait que, enfin, je ne crois pas
me dire que... Ah oui, il y a un viol de classe, quoi.
Voilà.
Soi-disant.
Voilà.
Soi-disant. Voilà. Oui, mais voyez, vous me dites, c'est historique. Donc, très bonne réponse, effectivement. On est préparé. On est... je reviens deux minutes sur la prostitution, puisque c'est quand même ça qui m'a agitée longtemps, cette... Et quand on parle de féminisme, il y a tout un côté des féministes qui ne comprennent pas ça. On en reparlera. Mais la prostitution serait utile pour éviter les viols.
Oui.
C'est-à-dire qu'un homme qui aurait des pulsions, pour éviter qu'il viole, il faudrait qu'il paye. Et c'est terrifiant, ça.
Ouais, c'est terrifiant.
Et on l'entend encore, ce stéréotype, alors qu'on sait très bien que c'est les pays... je veux dire, il n'y a aucun pays qui a moins de viols parce que la prostitution est autorisée. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça voudrait dire que si le monsieur ne peut pas payer, il va agresser n'importe quelle femme. C'est une vision de l'homme, de l'humain mâle, terrible, moi, que je ne veux pas avoir dans mes représentations.
Et après un moment où, quelque part, le changement de génération aurait pu permettre de rebattre les cartes, c'est-à-dire que culturellement, même au niveau littéraire, par exemple, moi vous savez que je suis une consommatrice, il y a cette culture du viol toujours, c'est-à-dire que quelque part, dans la culture masculiniste, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais quelque part les femmes elles aiment bien un petit peu quand même qu'on les force,
Oui, mais ça c'est pas seulement dans le milieu littéraire, j'ai été très amie avec... une ancienne présidente du CIDF à Montpellier qui me disait que les formations sur les violences conjugales, alors entre parenthèses, ça serait mieux de dire violences masculines dans le couple, parce que majoritairement quand même, ce sont les hommes qui sont auteurs de violences. Les formations, c'était sur le masochisme des femmes.
Oui.
Pourquoi elles ne partent pas? Si elles ne partent pas, c'est que peut-être, quelque part, elles aiment ça.
Et alors, ce qui m'inquiète, François, c'est que ce qui, aujourd'hui, avec quand même l'explosion de la parole, quand même, on en parle plus,
oui,
aurait pu se calmer, il y a quand même une culture du viol qui naît chez les ados, notamment avec l'accès au porno très tôt, où, évidemment, dans le porno, on nous tire les cheveux, on nous insulte, enfin bon...
Et on aime ça, surtout.
Et on adore ça.
Et on jouit à cause de ça. Oui. On fera une émission sur le porno, moi, je veux bien, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, donc cette culture s'infuse par plein de petits comportements, comment dire, en diffusant des stéréotypes sur ce qu'est un garçon, ce qu'est une fille et les grosses différences. Et puis voilà, ce que révèle cette affaire Depardieu, c'est comment dire, c'est une grosse acceptation sociétale. C'est oui, mais c'est lui. C'est la personnalisation.
Oh, c'est Gégé.
C'est lui. Ouais. Et moi, j'appelle ça la fraternité. C'est une belle valeur, la fraternité. C'est une de nos trois valeurs républicaines. Et la fraternité, c'était se mettre tous ensemble, qu'on soit femme ou homme, tous autour de lui. Notre frère, il est attaqué. C'est quelqu'un de chez nous qui est attaqué, on va le protéger. Et cet article d'Iris Bray dans Le Monde, elle est très intéressante parce qu'elle dit... On a tendance à croire qu'un homme qui est bon, qui est délicat, qui est sensible avec nous, il va l'être tout le temps. Il va être avec tout le monde. Et c'est ce qu'on dit de cet acteur, c'est ce qu'on a dit d'autres. On crie au génie, un homme comme ça ne peut pas faire ça. Mais c'est méconnaître la part obscure de chacun de nous. C'est comme si on avait un seul comportement qui est valable dans toutes les occasions. En tant que psychologue sociale, je sais bien que notre personnalité est quelquefois, si tant est qu'on en a une de solide, de fiable, elle est quelquefois indépendante du contexte. C'est-à-dire que selon le contexte, on peut tout à fait être généreux et être un salaud. Être généreuse et être une salope. Je suis désolée, ça se passe comme ça. Et cette complexité humaine, eh bien, il faut l'accorder à tout le monde. Et quand on dit « on ne sépare pas ceci, cela », vous savez, l'exemple qu'on prend, « oui, mais si mon charcutier est accusé de viol, je ne vais pas dire « oui, mais quand même, il faisait de la bonne charcuterie ». Non, on va dire...
C'est le sketch de Blanche Gardin.
C'est vrai, c'est ça. Je savais.
Mon boulanger, c'est le boulanger. Oh, mais il fait un tellement bon pain qu'il peut bien gueuler sa fille, c'est pas très grave.
Et donc, on va dédouaner quelqu'un et on va projeter... On va projeter une personnalité safe, comme on dit maintenant dans les milieux féministes, alors que, cet homme-là, il faut associer aussi ça au pouvoir. Je voudrais qu'on y revienne là-dessus. Les lieux de pouvoir, ça peut être le couple aussi. C'est partout où il y a une relation hiérarchisée. Et si on définit le féminisme comme une lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes... Tant qu'il y aura cette culture du viol, tant qu'il y aura de la prostitution, il n'y aura pas d'égalité. Et quand on parle de consentement aussi, on ne peut pas consentir dans une société inégalitaire. Voilà. Donc cette histoire-là nous montre que, malheureusement, on n'est pas rendu, comme disent certaines personnes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de conscience à éveiller. J'entends aussi... les résistances, c'est... on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Oh là là, mais on ne peut plus vous faire de compliments, mais on ne peut plus vous draguer, mais on ne peut plus... On va faire attention. Alors ça, c'est en train de tomber dans le milieu du cinéma, ce que cette affaire nous apprend, le milieu du cinéma. On va mettre sur les plateaux de tournage des personnes qui vont être chargées de regarder comment ça se passe pour l'actrice.
Bien sûr.
Dans cette scène, tu vas être obligé de faire ça, comment tu le sens. Et ce technicien-là qui t'a dit ça, mais raconte-moi, il faut le dire. Et quelques cinéastes sont en train de se dire, on n'est pas obligé de brutaliser les acteurs et les actrices pour obtenir des effets. Et on peut tout à fait faire sortir le meilleur des acteurs et des actrices, c'est quand même leur métier, dans une autre atmosphère qui n'est pas aussi sexualisée.
Et même des fois, par exemple, il y a un endroit où il y avait une violence énorme et qui s'exerçait toujours plus contre les femmes, parce que de toute façon, quand il y a un problème général, il est toujours plus fort chez les femmes, je trouve, c'est les cours de théâtre pour les jeunes comédiens.
Ah, ça, je ne suis pas courant. Et
où il y a vraiment... Où il était très... normal que les professeurs de cours de théâtre soient extrêmement violents. Tout le monde n'était pas comme Jean Vilar. Jean Vilar était un homme plein de respect pour l'autre. Mais beaucoup de profs de théâtre, qui étaient eux-mêmes des comédiens, étaient extrêmement violents. Et d'autant plus violents avec les femmes. Oui. Il y avait deux minorités, parce qu'on n'est pas une minorité. Il y avait deux cibles, c'était les femmes et les homos.
Ah oui. Oui, voilà. Les identifier dans la hiérarchie un petit peu en dessous Exactement. De la catégorie homme.
Ou d'être plus vexatoire, ou d'être plus humiliant.
Oui, oui, oui.
Il y a une humiliation qu'on a toutes subie, qui est une humiliation presque acceptée. C'est là quand on parlait de la culture du viol, l'acceptation par la société de quelque chose qui ne devrait pas l'être.
C'est une acceptation qui est utile pour conserver le pouvoir. Je discutais justement stéréotypes dans la semaine avec l'association Femmes et Sciences. À quoi servent les stéréotypes ? Ils servent à conserver le pouvoir. Ils servent à donner la place des uns et des autres dans ce qu'on est, ce qu'on doit faire quand on est femme ou homme. Et ils servent à conserver le pouvoir. Donc c'est pour ça que conserver le pouvoir, c'est conserver le pouvoir de mettre la main entre les cuisses d'une jeune fille, c'est pouvoir mal parler, c'est pouvoir sexualiser des enfants, c'est un petit peu tout ça.
On va marquer notre pause musicale. Françoise, vous avez choisi quoi pour nous ?
J'ai choisi Jeanne Haddad, Mutate.
On écoute et on se retrouve pour continuer à parler de la culture du viol.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. Say, can you see how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration waving through me? It's unusual.
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, toujours en compagnie de Françoise Mariotti pour cette première de Féminisme de Françoise, du Féminisme de Françoise, et avec Adrien Aubanet. Bonjour Adrien. Françoise, on a choisi comme thème aujourd'hui la culture du viol et l'affaire Depardieu. Mmh. Vous nous parlez de cet article du Monde.
Oui.
Et de fulgurances ou de mots ou d'idées dedans qui vous ont frappé.
Comment dire C'est sûr que je vais vous donner la définition de la culture du viol quand même, parce qu'on ne parle pas de concept. J'aime bien qu'on donne la définition la plus exacte possible, prise à la source de pourquoi le concept est né. Je vais vous donner la définition du sociologue Éric Fassin, puisque vous me ramenez à l'article. Alors je ne sais pas, moi je fais mes débuts à la radio, je ne sais pas si c'est bien vu de lire une définition. Je suis une ancienne enseignante, donc j'aimais bien lire, mais vous me direz si c'est trop pénible, je ferai différemment. Ça va être de mieux en mieux, hein, cette émission. Alors, Éric Fassin définit ainsi la culture du viol. Il s'agit de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, c'est tout à fait ce qu'on a dit, et non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible, en la tolérant, voire en l'encourageant. Le viol apparaît ainsi comme un comportement extrême, dans un continuum qui commence par les comportements ordinaires jugés normaux. Et Iris Bray dit quelque chose, je le pensais tellement que j'aurais presque pu l'écrire. Ceux qui violent femmes et enfants le font parce qu'ils ont intégré qu'ils pouvaient le faire.
C'est tout à fait ça.
Et donc c'est inscrit dans une norme, et cette norme-là, elle est tellement acquise, historique, comme vous disiez, Nathalie, qu'on ne s'en rend pas compte. Exemple, il y a 4-5 ans, il y avait une exposition, à l'hôtel Sabatier d'Espéran pour le 8 mars. Et je rentre dans l'atelier. Excusez-moi, mon casque est tombé, je ne bougerai plus. Et je rentre dans l'hôtel, à côté du musée Fabre, et je vois dans la première salle, alors il y avait des objets différents, des tableaux différents. Et je vois un immense tableau qui est exposé sur un chevalet, qui est sorti du mur, qui est sur un chevalet. C'est une scène de viol. C'est-à-dire, c'est des belles femmes nues et tout, et puis des satires. Et moi, je suis... Alors, j'ai un décodeur féministe qui est aiguisé depuis des années, des années, des années. Donc, je vois tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est pas possible que ce soit là pour le 8 mars, quand même. Et j'en parle aux gardiens. Les gardiens dans les musées, ils sont très, très érudits. Ils peuvent nous renseigner sur énormément de choses. Ils ne font pas croire qu'ils sont là que pour nous surveiller et nous interdire de poser les mains sur les beaux objets. Non, non. Et il me dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites. Et justement, il y a le jeune conservateur qui est là, qui est pas loin dans quelques salles. Je vais vous l'appeler. Et je lui dis, il me dit, et je l'invite à regarder avec moi, avec ce regard. Il me dit, mais c'est vrai, j'ai pas vu. Pour lui, c'était de l'art. Mais oui, c'est de l'art, il n'est pas question qu'on fasse du wokisme, hein, comme on dit maintenant, qu'on efface, qu'on rende tout lisse, mais mettre ce tableau pour le 8 mars, non, c'était... voyez. Et donc si on n'est pas féministe, ça, alors j'ai tellement de personnes autour de moi qui ne veulent pas être féministes que des fois je me dis on n'a pas fait assez de pédagogie, mais si on n'est pas féministe, on participe à la culture du viol, on participe à la norme, quand on rit à des blagues stupides, on participe à la culture du viol.
Mais je pense que là, ça rejoint très bien le cas de Pardieu, c'est que je pense que tous ces gens qui ont réagi en le soutenant, ce sont les gens qui ont ri pendant des années aux vannes grasses.
Oui.
Donc qui sont quand même, ce partage de culpabilité, il y en a très peu qui veulent l'assumer. Et surtout qu'à un moment, enfin moi j'ai 60, un peu plus de 60 ans, c'était presque générationnel, on en a parlé en préparant l'émission, hein, mais je me rappelle des vannes de enfin c'était plus, quand Philippe Val et Patrick Font font des vannes, on s'aperçoit qu'un jour, Patrick Font, il était quand même vraiment pédophile.
Ouais.
On a accepté longtemps, ou même Duhamel, la sidération quand Duhamel a dénoncé, tout ce qui repose encore sur les épaules de Colline, de la fille de Richard Berry.
Oui.
Tout le doute, l'immédiat doute qu'il y a sur la parole des femmes.
Oui, l'immédiat doute. On fera quelque chose sur la victimisation, les victimes, les plaignantes. J'ai lu les propos d'une avocate dernièrement. Enfin bref, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais effectivement, ça repose sur nos épaules. Et en même temps, ce qui a été exemplaire dans cette affaire de Pardieu, au plus haut niveau, puisque notre président s'est permis de donner son avis, c'est tellement centré sur l'auteur qu'on en oublie qui le fait à des filles, à des femmes, et qu'en parlant de lui, on ne parle pas d'elle. On pourrait parler de lui et dire « Ok, il a fait ça, ok, on n'a pas compris, et puis, Et c'est terrible pour ces jeunes filles, ce que Macron n'a pas fait.
C'est ce qui est terriblement reproché à Macron.
C'est ce qu'il n'a pas fait. Ouais, enfin, c'est
un mot. Ouais.
Mais d'autant plus que on peut être d'autant plus en colère qu'il a fait de ces quinquennats des causes principales. Alors qu'on a eu une Marlène Schiappa qui a rien dit sur la prostitution parce qu'elle était du côté de oh là là, mais ça peut être un métier, nana, ça, là, on peut gagner de l'argent avec. Là, on change de ministre des droits des femmes. On change tellement qu'on ne reconnaît plus le nom. On a eu Isabelle Rome, on a eu Bérangère Couillard, on a Aurore Berger maintenant. Bref, elles n'ont pas le temps de s'installer. Donc cette histoire de... on peut dire, on ne comprend pas bien, allez, on va pas l'embêter, c'est un grand acteur. Mais quand même, il n'aurait pas dû. Mais quand même, ces pauvres filles... Ok, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu deux côtés de ce qu'on a vu chez lui, c'est... ok, il est accusé de viol, et là, il a droit à la présomption d'innocence. Mais tout ce qu'il a fait, tout n'est pas dans le complément d'enquête, dans le documentaire. Mmh. Ce n'est pas que ça, c'est l'atmosphère qu'il faisait régner sur les plateaux par rapport aux jeunes filles. Et comme certaines ont témoigné, et certains hommes, metteurs en scène, ont dit aussi, ils ne s'attaquaient pas aux grandes actrices. C'est pour ça qu'elles peuvent dire « Ah non, mais il était tellement... »
C'est ce que dit Isabelle
Tellement
Carré,
génial, oui. Voilà. Oui. Et donc ça, combien de fois nous sommes... nous additionnons ces comportements, les uns après les autres. Hein, Eric Fassin parle de continuum.
Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que si on sépare l'homme de l'art, à ce moment-là, Arletty, Sacha Guitry, tous les gens qui étaient des artistes et qui ont soutenu le régime de Vichy et les nazis, à ce moment-là, on les sépare aussi.
Oui,
pourquoi on l'accepte pour les femmes et pourquoi on ne l'accepte pas pour la politique, alors ?
Oh, on l'accepte
c'est moins
pas.
Grave pour nous ?
C'est une réduction de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a deux pensées en même temps. Je pense que ces gens-là, ils ne sont pas profondément innocents sur ce qu'ils savent de l'homme. Mais c'est dérangeant de le croire. Après, vous savez, juste j'ai autre chose à dire là-dessus quand même, cette première pétition, dont maintenant beaucoup disent « mais j'aurais pas dû la signer, je l'ai pas bien lue ». Moi, j'ai côtoyé Laura Adler un temps à Montpellier, alors qu'elle venait parler du 8 mars. J'ai assisté à une conférence où elle était là, il y avait Mathilde Monnier, et toutes les deux venaient de signer la pétition « Libre de se prostituer ». Réclamer que les femmes soient libres. C'était avant la loi 2016. Hein. Et Laura Adler, moi je l'admirais, Mathilde Monnier, je ne comprenais pas bien. Et j'étais placée à côté de Laura Adler, je lui dis, mais comment vous avez fait pour signer ça ? Elle venait d'avoir des propos justement très abolitionnistes, très, très féministes. Je lui ai dit, comment vous avez pu ? Elle m'a dit, écoutez bien, elle m'a dit, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Des copines m'ont appelée, m'ont dit, Laure, il faut absolument que tu signes ça. J'ai signé, c'était des copines.
C'est grave.
Et elle me dit, mais je comprends. Elle me dit, vous êtes sûre, c'était ça, ça voulait dire ça. J'ai dit, elle a pas lu, peut-être qu'elle a pas lu le titre non plus, mais et elle a fait marche arrière. Et ces personnes-là qui ont signé, peut-être qu'ils ont pas lu. Tiens, il y a un tel. Vous savez, on a confiance puisque c'est un tel qui le dit. Et ça, c'est dramatique. On peut pas penser que des personnes si à une certaine hauteur qui ont incarné des rôles tellement incroyables n'aient pas cette conscience-là pour faire confiance. Mais j'ai pas lu. Ouais, mais ça fait du mal, quoi, de pas lire.
Et puis, toute cette vague qu'il y a eu aussi en disant, la même semaine, il a fait une émission tellement belle avec François Bunel sur la littérature. Quand Gérard Depardieu parle littérature, c'est tellement un homme subtil. Bah oui, quand il parle littérature, pas quand il parle des femmes, quand il parle aux femmes.
Mais il peut parler aux femmes aussi, puisqu'il chantait les chansons de Barbara, c'est des chansons de femmes, vous voyez. Mais encore là... C'est pas parce qu'un homme a cette richesse-là qu'il peut pas ne pas avoir un comportement sexuel
C'est ce que vous avez dit
abusif.
En début d'entretien, d'ailleurs, Françoise. Hein,
oui.
C'est entre ce qu'on montre et ce qu'on est, on ne connaît jamais la...
Et puis, le domaine de la sexualité, de la sexualisation, c'est un domaine très, très complexe, qui ne peut pas être ritualisé tout le temps, mais c'est quand même un domaine qui échappe et je ne sais plus qui disait, un homme ça se tient, un homme ça s'empêche. C'est un homme qui a écrit ça. Ça vous parle pas, Nathalie ?
Si, si, bien sûr.
Mais qui a dit ça ?
Je m'en rappelle plus.
Un homme ça s'empêche. Oui.
On en a parlé mercredi, on aurait dû aller voir.
Oui, être un homme quand même, il y a une belle, un beau poème sur « Tu seras un homme, mon fils ». Alors, il ne parle pas de sexualité, mais ça devrait être dedans. « Tu seras un homme, mon fils, si tu sais que le comportement sexuel, sexualisant que tu vas avoir sur une autre personne, qu'elle soit homme, femme, enfant, sur une autre personne, n'est pas respectueuse. » Et je voudrais terminer là-dessus, je ne sais pas combien il nous reste de temps.
Il nous reste 5 grosses minutes.
5 grosses minutes. Quand on dit on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, j'aimerais qu'on revienne au respect. Mmh. Parce qu'après la fraternité... bien sûr, on dit qu'on aiderait notre ami à transporter le cadavre qu'il vient de tuer. Oui, et c'est peut-être ça qui est en train de se passer, mais dans la vie de tous les jours, le respect, est-ce que ce n'est pas une valeur qui se perd, justement ? Et est-ce que considérer que ben, quand on rit de blagues dont on sait, on connaît les conséquences en chaîne, ben, on va s'arrêter de rire parce que ce n'est pas si respectueux, finalement ?
Il y a même plus que rire, il y a carrément, par exemple, c'est le cas de Strauss-Kahn, on parlait de la politique, ou c'est le cas, évidemment, de Poivre d'Arvor, où tout le PS savait qu'il ne fallait pas laisser une jeune attachée parlementaire avec Strauss-Kahn, et surtout qu'il ne fallait pas laisser une jeune stagiaire seule, parce que, comme vous le disiez, c'est jamais
les femmes qui ont du pouvoir.
Voilà. Mais la jeune stagiaire, il ne fallait surtout pas qu'elle rentre dans le bureau de Poivre, que c'était dangereux. Donc ça veut dire qu'on préfère dire aux femmes « n'y allez pas, c'est dangereux
oui. »
que de dire à l'homme « arrête d'être dangereux ».
Oui. On dit aux femmes maintenant « il faut savoir dire non ». Battez-vous, vous devez savoir dire non. Oui, eh ben, c'est tout un apprentissage de savoir dire non. Quand on est dans la sidération d'assister à quelque chose de grave qui nous empêche de parler aussi bien si on y assiste que ce qu'on vit, bah essayez de dire non. Et puis c'est bien beau, allez, faisons des stages pour apprendre aux femmes à dire non. La parole des femmes, on la libère, mais est-ce qu'elle est écoutée ? Est-ce que même quand on dit non, le monsieur qui va avoir un comportement abusif, il va l'entendre ce non ? Il paraît que ça peut exciter aussi qu'on dise non. Ah ah, tu me résistes, j'adore ça.
Et savoir qu'en disant non aussi, on va peut-être dire non à une carrière, on va dire non à...
Exactement.
Voilà, c'est que le non, c'est pas seulement un non. On doit dire non à l'homme, mais en même temps, on doit dire non à des fois toute une vie sociale, une projection.
Et oui. Disons que si c'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est plus difficile de dire non que si c'est... Si c'est un compagnon, si c'est un ami, si c'est le voisin...
En aucun cas, c'est facile.
En aucun cas, c'est facile. Alors, ça peut être un réflexe tout de suite. Ou je me souviens d'un jeune homme quand j'étais pas encore mariée. Je l'avais retrouvé. Je l'avais invité à passer la nuit chez moi. Et puis chez moi, je me suis aperçue qu'il me plaisait plus du tout. Plus du tout, mais alors c'était tombé, quoi, le désir. Eh ben, j'ai parlé, puis il me dit, oh, j'ai sommeil, Françoise. Je me suis dit, chouette, il va dormir. J'ai parlé beaucoup. J'ai pas eu à dire non parce que je l'ai empêché. Je crois que c'est Sherazade qui racontait toute la nuit pour pas te tuer.
Mais c'est marrant que vous racontiez ça parce que ça m'est arrivé aussi quand j'étais jeune fille, ce genre d'histoire.
Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, peu cher, comme on dit à Marseille. Moi, j'étais tout habillée, j'étais en train de réviser mes cours de comptabilité. Je lui ai fait sa tasse de café. Il m'a dit à bientôt. Je dis oui, je te raccompagne à la porte. Mais voyez, voilà, dire non.
Ah. On va faire une émission sur le savoir dire non.
On va faire plein d'émissions.
Ouais. Françoise, il reste 2 minutes.
Oui.
Cet article du Monde, il est disponible, je pense, encore sur votre journal.
C'est un article du dimanche 7. Mais voyez, l'histoire de Pardieu, là, ce qu'elle génère comme phénomène, c'est intéressant finalement. Et là, c'est intéressant que ça survienne parce que moi, c'est mon chéri qui m'a apporté le journal en m'apportant le petit déjeuner du dimanche, pas chaque dimanche. Et je me suis dit, oh non, pas encore ça, c'était en première page. On va parler de Pardieu à la page 16 et à la page 22. Je me dis, non, pas encore. Et puis finalement, on creuse autour. Hein, voilà, on creuse parce qu'on voit que c'est sociétal cette histoire. Et il y en a plein d'autres. Il devrait pas y avoir Dieu dans son nom d'ailleurs. Bon, ça c'est une bêtise.
Il y a des livres. Vous pourrez nous conseiller dans les émissions des livres peut-être parce qu'on en a parlé aussi en préparant l'émission. Il y a des livres qui abordent
Iris,
ça.
Iris, allez voir Iris Bray.
Iris Bray, ça s'écrit
B R E Y. Elle a écrit le regard féminin. La culture de l'inceste en 2022. Et elle a réalisé la série Split. Alors, je ne l'ai pas vue, cette série, hein, diffusée sur la plateforme TV, France TV. Ouais.
Parce qu'il y a des textes, quand même, on a des admirations communes, notamment pour Lucile Pétavin.
Oui, oui. Ah, bah oui, alors là, c'est le coût de la virilité. Mais on le paye tous les jours, le coût de la virilité. Et les hommes le payent aussi, hélas. Mais je m'ennuie l'émission de février avec William.
Voilà, on se donne rendez-vous en février. Alors, je vous dis quand même, le thème abordé, ça sera la déconstruction des hommes. Et ça ne sera pas avec moi, ça sera avec William.
Oui, pour la Saint-Valentin.
Voilà, on va déconstruire les hommes.
Oui, on va se faire un cadeau d'un homme déconstruit.
Merci beaucoup Françoise pour cette première. Merci. Je suis vraiment ravie que vous rejoigniez l'équipe de Radio FM+.
Oui.
Au mois prochain, au revoir.
Au revoir.